Et à regarder avec moi dans Ésaïe chapitre 4. La dernière fois, nous avons regardé ensemble les deux premiers versets. Et donc, je voudrais reprendre à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Et j'ai intitulé cette étude « Le règne du Christ sur son peuple ». Ici, Ésaïe prophétise concernant le germe de l'Éternel. Nous avons vu que cela s'agit du Christ qui devait venir dans le monde et comme une plante qui devait se lever de la terre sèche, il devait vivre sa vie sur cette terre et puis à un moment donné, prévu par Dieu, l'arbre devait être coupé. Il devait donner sa vie. Et cela pour son peuple que le Père lui a donné. Mais il ne devait pas rester mort. Le tronc de cet arbre de vie devait repousser après sa mort. Il s'agit là de sa résurrection où aujourd'hui il règne. Et donc, cette partie de ce passage ici dans Ésaïe chapitre 4 nous donne les détails de la venue de Christ et de son règne sur son peuple. Il y a beaucoup de gens en lisant ce passage qui disent que non, cela appartient encore au jour à venir. Mais nous allons voir que non, tout ce qui est prophétisé ici par Ésaïe a été en effet accompli dans la première venue du Seigneur Jésus et donc il règne aujourd'hui selon les prophéties et les promesses de l'Ancien Testament. Mais lisons ces versets et puis je vais faire quelques commentaires là-dessus. Dans Ésaïe chapitre 4, à partir du verset 2, nous lisons « En ce temps-là ». Donc, il s'agit du premier siècle, au temps où il a plu à Dieu d'envoyer son Fils dans ce monde. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Donc voilà d'une manière poétique que Ésaïe décrit l'œuvre de Christ. Et ici, Sion représente en effet son Église. Je sais qu'au début, Sion et Jérusalem représentaient le peuple d'Israël, où Dieu avait placé sa gloire dans le temple. Mais aujourd'hui, nous savons que Sion représente l'Église de Christ. Surtout, nous voyons ça dans Hébreux chapitre 12, où c'est écrit dans le verset 22, Hébreux 12, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, et notons de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, ce qui était prophétisé concernant Jérusalem et de Sion, et ce que nous lisons ici de la manière que Jérusalem devait être lavée des ordures et que la justice devait être établie, tout cela représente l'œuvre de Christ qu'il a accompli lorsqu'il est venu. Et c'est effectivement sur ce mont Sion, de Sion, qu'il a accompli son œuvre en donnant sa vie en sacrifice pour le peuple que Dieu lui avait donné. Donc, la première des choses que nous pouvons dire concernant le gouvernement de Christ et son règne sur son peuple, c'est que c'est marqué par la sainteté. Voilà ce qui est écrit concernant les restes de Sion. Vous voyez ça dans le verset 3. Qui sont les restes? Que représentent les restes? Ça représente ceux que Dieu a élus dans sa grâce de parmi le peuple d'Israël, mais aussi, il faut dire, parmi le monde, parce que maintenant, Jérusalem, où le véritable Israël est conçu et fait des pécheurs que Dieu a choisis de toute race, de toute langue. Voilà la Jérusalem céleste, comme nous avons lu dans Hébreux 13. Leurs noms sont inscrits dans les cieux. Où est-ce que ces noms sont inscrits? C'est dans le rouleau de vie de l'agneau qui est venu et qui a été immolé. Donc, ce qui est typifié ici dans l'Ancien Testament sous forme d'image est maintenant accompli dans l'œuvre de Christ pour ceux que Christ est venu sauver. Et cela, comme c'est écrit dans le verset 3, seront appelés saints. Ça, c'est ce que la Bible appelle ceux qui ont été justifiés et sanctifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que personne n'est saint en elle-même, mais que la sainteté qui représente la sainteté de Christ et qui répond à la sainteté de Dieu. Voilà ce qui est la sainteté de ceux qui sont, comme c'est décrit ici, les réchappés d'Israël ou les restes de Jérusalem. Cela représente les élus de Dieu que Dieu lui-même a fait réchapper et préserver. Rappelons-nous que Ésaïe était en train d'annoncer le jugement certain du pays d'Israël par Nebuchadnezzar et les Babyloniens. Mais voici la promesse que Dieu donnait à travers Ésaïe, que ce n'était pas tous qui devaient mourir ou être détruits, que Dieu devait préserver, comme nous avons vu dans le verset 2, un germe. Cela veut dire une postérité qui est Christ, la postérité de David, de Judas, pour qu'il vienne au moment déclaré par Dieu lui-même et qu'il accomplisse toutes choses qui ont été écrites de lui dans les prophéties, les promesses, les types et tout. Donc, ici, c'est en contraste avec les filles pécheresses de Sion que nous avons vues à la fin du dernier chapitre, ce qui représentait la fausse religion qui existait à ce temps-là en Israël. Et quoique pour un temps on regarder ces filles pécheresses comme étant belles, et on les appelait attirantes, on les appelait à la mode, et pourtant on ne pouvait pas les appeler saints. C'est comme des gens aujourd'hui qui représentent la religion, qui s'habillent bien dans leur religion, et ils ont de vêtements précieux, comme c'est écrit dans le dernier chapitre 3, le verset 22, les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs, les chemises fines. Tout cela représente la propre justice, si vous voulez, des gens dans la religion qui s'imaginent que c'est ça qui leur donne de l'importance devant Dieu. Mais en tout cela, rien ne peut satisfaire à la sainteté de Dieu. C'est pourquoi il nous faut, en tant que pécheurs, une sainteté qui répond à la loi et la justice de Dieu pour que nous puissions être appelés saints. Ici, quand c'est écrit, ils seront appelés saints. Cela veut dire que cette œuvre de sainteté que Christ devait accomplir était encore future. Dans l'Ancien Testament, à travers les sacrifices, les péchés de ceux qui appartenaient au Seigneur étaient couverts, mais non pas enlevés. Pour que ceux-là soient appelés saints, c'était nécessaire que Christ vienne et qu'il accomplisse cette sainteté. Et nous savons alors que c'est lorsqu'il a vécu sa vie et qu'il a donné sa vie à la croix, que à ce moment-là, Dieu a déclaré juste. Voilà la signification du mot saint. Il a justifié et il a sanctifié son peuple une fois pour toutes. Donc ici, il s'agit d'une sainteté que Dieu devait imputer, attribuer à ce peuple pour qu'il soit habillé maintenant de cette sainteté et que tout ce que ce peuple imaginez avoir dans leur propre sainteté auparavant était maintenant enlevé. Dieu doit tout mettre à nu pour habiller son peuple de cette sainteté que Christ est venu accomplir dans sa vie et par sa mort. Dieu a une fois pour toutes expié les péchés et ainsi racheté ce peuple, les a justifiés et les a sanctifiés, ayant payé leurs dettes et ainsi donné une justice égale à celle de Dieu le Père, par laquelle il serait appelé saint. Dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 9, nous voyons cela expliqué dans le Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 2 et le verset 9, en contraste avec le peuple naturel d'Israël, comme c'est écrit ici, verset 7, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Donc la Bible fait une distinction entre ceux qui sont le peuple naturel d'Israël et ceux parmi Israël qui devaient croire par la grâce de Dieu. C'est écrit, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc, lorsque Christ est venu dans le monde, ce n'était pas pour tout le monde, ça c'est évident. Il y en a qui étaient destinés à la condamnation. Et Christ, qui est représenté ici comme la pierre appelé ici la pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Il l'est encore aujourd'hui. Pour ceux qui laissaient à eux-mêmes continuer à vouloir mériter une place auprès de Dieu et pensant que, qu'à travers leurs œuvres, ils sont en train de satisfaire à la justice de Dieu. Ceux-là sont condamnés. Mais voyons verset 9. Vous au contraire, et ici il s'agit de ceux qui sont appelés les réchappés, les restes de Sion. Vous au contraire, vous êtes une race élue, élue par la grâce de Dieu depuis l'éternité. Notons, un sacerdoce royal. Un sacerdoce veut dire un royaume de sacrificateurs, mais royal, qui règne. Qui est-ce que cela décrit si ce n'est pas le peuple de Dieu que, pour qui Christ est venu dans ce monde? Appelé ici, notons, une nation sainte. Ce n'est pas parce que ce peuple a une sainteté en lui-même, mais ici, il s'agit d'une sainteté qui est le fruit de l'œuvre de Christ, qu'après avoir accompli cette œuvre à l'égard de ce peuple, cela a été imputé, mis au compte de ce peuple. Et notons ce qui suit, un peuple acquis. Voilà ce qui est important pour nous de comprendre, qu'en même temps que Dieu a acquis ce peuple, bien sûr élu, mais c'était nécessaire que Christ vienne et qu'il rachète ce peuple. En même temps qu'il a racheté ce peuple par son sang, ce peuple, Dieu a déclaré saint. Ça, ce n'est pas quelque chose qui se passe plus tard. Quand les gens disent, non, c'est quand nous croyons en Christ, alors nous commençons maintenant à être appelés un peuple saint. Non, c'est à partir du moment que Christ est mort, qu'il a versé son sang, que Dieu a attribué, a imputé cette sainteté à son peuple. Et notons, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. D'abord, c'est l'œuvre de Christ, ensuite, c'est l'appel. Et puis, le verset 10 nous dit, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant vous avez obtenu miséricorde. » Voilà le peuple sur qui Christ règne. Il y a encore un passage dans Hébreux chapitre 10 et le verset 9 à 14 qui clarifie encore ce passage dans Ésaïe 4 de ceux qui sont appelés saints, ou comme Ésaïe a prophétisé, seront appelés saints, mais maintenant, en regardant en arrière à l'œuvre accomplie de Christ, nous voyons qui sont appelés saints. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 9, c'est écrit, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Ce sont les paroles de Christ lui-même, décrites dans l'Ancien Testament. Et c'est écrit, « Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. » C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier ici, quand ça parle des restes de Sion, les restes de Jérusalem, il ne s'agit pas du peuple juif naturel. Il a aboli le premier pour établir le second. Et verset 10, c'est en vertu de cette volonté. Notons que nous sommes sanctifiés. Ça ne dit pas que nous serons sanctifiés, comme si c'est encore futur, mais nous sommes sanctifiés, comment? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, notons, une fois pour toutes. À quel moment est-ce que ceux que Dieu a sauvés À quel moment est-ce qu'ils étaient sanctifiés? Ils étaient sanctifiés lorsque Christ a donné sa vie. C'est ce qui est écrit. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Il y en a aujourd'hui dans le fausse pensée qu'ils imaginent qu'ils sont en train de se sanctifier. Ils œuvrent par leur mérite de se sanctifier, par leur dévotion, leur prière et leurs œuvres. Mais tout cela, c'est en vain. Nous, ce que le monde cherche pour y arriver, nous avons dès le départ, si nous sommes en Christ, parce que cela a été accompli pour nous lorsque Christ a donné son corps par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas rendre saint. Donc, c'était toujours en image de l'œuvre de Christ lorsqu'il devait venir. Mais maintenant que Christ est venu, nous pouvons dire que c'est accompli. Et verset 11 dit, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » Donc tous ces sacrifices de l'Ancien Testament préfiguraient cette unique offrande du corps de Christ. Verset 12, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Quand c'est écrit « Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu », cela déclare qu'il règne maintenant. Le fait de s'asseoir signifie que l'œuvre est finie. Dans le tabernacle et le temple, il n'y avait pas de chaise pour les sacrificateurs de s'asseoir, mais Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours, l'œuvre étant accomplie à la droite de Dieu, attendant, verset 13, désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Cela se réalise lorsque Dieu, dans sa grâce, fait humilier ceux qui sont de nature des ennemis de Dieu, mais par sa grâce, puisque Christ a payé leur dette, dans sa grâce, il les humilie. Mais il y a aussi d'autres ennemis qui ne vont jamais bénéficier de la grâce de Dieu, qui seront aussi rendus et humiliés devant Christ pour devenir son marchepied. Là, c'est dans le jugement. D'autres dans la grâce, d'autres dans le jugement. Mais voilà le verset 14. « Car par une seule offrande, il a amené quoi? À la perfection. » Voilà la sainteté. Pour toujours, ceux qui sont sanctifiés, déclarés justes. Alors, nous revenons ici dans mon texte, dans Ésaïe chapitre 4. Et c'est ainsi que nous constatons que ceux qui seront appelés saints sont ceux pour qui Christ devait donner sa vie. Et ils sont marqués alors de cette bénédiction distinctive et appelés ici les filles de Sion. Notons dans le verset 4, « Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. » Ce que Christ a accompli, c'était un acte de justice qui a une fois pour toutes purifié les filles de Sion, les véritables de Sion, c'est-à-dire le peuple de Dieu et la femme qui représente l'Église pour qui Christ est venu dans ce monde. Le mot saint ne signifie pas, comme beaucoup imaginent aujourd'hui, ceux qui sont super spirituels. Ça ne signifie pas non plus la perfection dans cette chair, nous n'en avons pas. Et il y en a qui ont cette idée d'eux-mêmes, qui sont plus spirituels que d'autres. Mais cela ne représente pas la sainteté devant Dieu. Si nous avons la sainteté, c'est en Christ et Christ seul. Alors, nous avons dans les versets 4 à 6 de mon texte, les caractéristiques donc de cette société, de ce peuple, où règne le germe de l'Éternel. Et je veux insister encore, il règne maintenant. Tout ce que nous sommes en train d'accomplir, de voir ici, a été déjà accompli en Jésus-Christ. Ça ne parle pas ici d'un règne futur, comme beaucoup aujourd'hui prophétisent que non, Christ doit revenir et reprendre son œuvre parmi les Juifs, la nation juive. Il va régner encore à Jérusalem, le temple sera reconstruit. Tout ça, c'est de la folie et la fantaisie. Ici, c'est clairement en train de décrire l'œuvre que Christ a accomplie à sa première venue. Donc, lorsque ça parle ici d'avoir les ordures lavées dans le verset 4, c'est quand encore le germe de l'Éternel devait pousser, qui devait en même temps régner, et sous son règne, il devait avoir cette purification, c'est un nettoyage net qui devait venir pas des hommes, mais par l'œuvre de Christ. C'est le sang de Christ qui nous purifie. Et donc, c'est ainsi que Christ, par son sang, Dieu a purifié sa Jérusalem, cette ville, cette cité céleste, et a rendu son peuple pur. Ici, le péché est représenté, quand c'est écrit les ordures dans le verset 4, c'est l'excrément. Effectivement, c'est ce que le péché est dans nos vies. C'est le vomissement, si vous voulez, devant Dieu. Mais et donc ainsi, c'est une souillure abominable. Mais c'est pourquoi Christ est venu, afin de donner sa vie. Rien, à part le sang de Christ, ne peut purifier le pécheur. Donc, c'est Christ qui a aimé ce que le Père lui a donné et a lavé ce peuple de son propre sang. Et c'est ainsi qu'il en a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu et pour son Père. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1 et le verset 6, nous voyons ce que Ésaïe a prophétisé devait arriver. Nous voyons cela accompli dans la personne de Christ. Jean, qui était un des apôtres de Christ, après que Christ est remonté au ciel, ici, dans Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ, comme nous voyons dans le verset 1. Apocalypse ne concerne pas les temps, les saisons, comme les gens prétendent que ce sont des choses encore à venir. Il a testé ces choses concernant les temps présents où Jean lui-même était encore en vie et qu'il annonçait le témoignage de Christ à ceux qui vivaient encore dans le premier siècle. Voilà le sujet du livre d'Apocalypse, comme c'est écrit dans le premier verset, révélation de Jésus-Christ. Ça ne dit pas révélation des temps et des saisons, non, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, notons, les choses qui doivent arriver bientôt. Il y a plus de 2000 ans qui sont passés depuis qu'il a écrit cela, mais en particulier, ce livre a été écrit aux églises du premier siècle, les 7 églises qui sont mentionnées. Les églises n'étaient pas nombreuses, mais quand même, ces assemblées représentaient les élus et les restes dont nous sommes en train de lire ici dans Isaïe 4. Mais le message qui leur a été donné, nous voyons dans le verset 5, est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Tout le monde veut parler de leur témoignage fidèle. Non, il n'y a qu'un seul témoin fidèle, c'est Christ. Notons, le premier-né des morts est le prince des rois de la terre. Ce titre démontre déjà que ce Christ règne maintenant. Aujourd'hui, il a tout accompli. Monté au ciel où il est assis à la droite de la majesté divine et il règne. Nous n'attendons pas à ce qu'il revienne encore à la terre pour régner. À celui, notons, qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, comment? Par son sang. Voilà ce qui est écrit ici dans notre texte. Comment les ordures des filles de Sion ont été purifiées du sang qui est au milieu d'elles. Le sang que nous avons mérité le jugement de Dieu, mais il a purifié ce peuple. Et ça par le sang de Christ, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et notons, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, non seulement le peuple lavé des ordures, mais aussi mis à part dans la sainteté par l'œuvre de Christ. Donc ça, c'est la première caractéristique de ce peuple qui est décrit ici, qui est sous le règne de Christ, qui sont les sujets de son royaume. Mais deuxièmement, nous constatons ici, comme c'est écrit dans le verset 5, que l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Nous savons que cela était l'image du tabernacle où la présence de Dieu se représentait par la fumée pendant le jour et le feu flamboyant pendant la nuit. Et maintenant, c'est représenté dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous dire que lorsque le germe de l'Éternel aura accompli tout ce qu'il devait accomplir pour le salut de son peuple, que sa présence, la présence de Dieu sera avec ce peuple exactement comme la présence de Dieu était avec le peuple d'Israël dans le tabernacle et dans l'Ancien Testament. Voilà l'exemple que nous avons des images. La nuée représente Christ. Le feu flamboyant la nuit représente Christ. Nous savons cela parce que dans Jean chapitre 1 et le verset 14, d'abord, Jean commence dans son évangile, dans le premier verset, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc nous avons clairement déclaré qu'il y a le Fils de Dieu qui est Dieu lui-même, il est la parole, il était au commencement avec Dieu et était Dieu. Mais maintenant, verset 14, « Et la parole a été faite chair. » Et notons, « Elle a habité parmi nous. » Ces mots « habiter », ce mot « habiter » signifie « tabernacler ». Il est devenu le tabernacle de Dieu parmi nous. Et ici, c'est écrit « plein de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire. Cela se réfère encore dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 13, où il y avait cette colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit. C'est ainsi que Dieu a manifesté sa gloire dans l'Ancien Testament, mais c'est de la même manière que Dieu a manifesté sa gloire en son Fils. Bien sûr, une gloire cachée, parce que c'était caché dans la chair. Les gens n'ont pas pu voir une lumière qui brillait autour de Christ lorsqu'il marchait par-ci, par-là. Mais néanmoins, en lui, il représentait la gloire de Dieu. Et Jean le dit, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, comme la colonne de feu devait éclairer les enfants d'Israël et les guider dans leur passage à travers le désert pendant la nuit. Christ est cette lumière pour son peuple, sur qui il règne. Et par lui, ses enfants sont guidés et ont, par son esprit, de très grandes illuminations et clarté, surtout à travers ce que l'Évangile annonce. C'est ainsi que nous marchons en lui, pas dans les ténèbres, mais comme des enfants pendant le jour. Et c'est Christ qui est le représentant de la présence de Dieu avec nous, comme c'est écrit là. C'est écrit, revenant dans mon texte, qu'il y aura, verset 6, un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. Le mot abri, là, représente une tente. Et encore, c'est le mot tabernacle. On peut lire ça de cette manière. Il y aura un tabernacle pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Voilà ce que Christ représente pour son peuple. Il est ce tabernacle, et c'est en lui, par la grâce de Dieu, que son peuple vit et que son peuple est préservé de la chaleur du jour. Quelle est la chaleur du jour? Ça peut représenter la loi. Qu'est-ce qui nous préserve des condamnations de la loi et de la justice de Dieu? C'est Christ qui est cet abri, sa personne et son œuvre. Et donc tout ce que Dieu devait attribuer à son peuple comme pécheur, il a attribué à son Fils. Christ est devenu l'offrande du péché pour son peuple, afin que nous devenions en lui la véritable justice de Dieu. Voilà comment Christ est cette ombre dans la journée de la chaleur. Il nous préserve des menaces de la loi ayant tout accompli. Mais il faut dire, il s'agit aussi des tentations de Satan, de ce monde, ou bien même la chaleur de nos propres chairs, parce que nous sommes toujours des pécheurs. Où est notre refuge? C'est écrit ici, verset 6, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. C'est ainsi que Christ lui-même est ce refuge pour les pécheurs en qui son peuple se trouve en lui, et que nous fuyons de ce monde et des menaces de la loi et du péché pour trouver notre refuge en Christ et en Christ seul. C'est lui qui est un refuge, c'est un lieu de sécurité qui nous préserve. Et c'est ainsi que Christ est contre tous les dangers, contre tout ennemi, grâce à son œuvre pour son peuple. Dans Ésaïe chapitre 26, et le verset 20, nous voyons cela expliqué aussi davantage. Ésaïe chapitre 26 et le verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Lorsqu'Isaïe annonçait ces prophéties, c'était en vue des menaces de Nebuchadnezzar et de Babylone qui devaient venir ravager le pays. Mais même à travers ce jugement du pays, il y avait un refuge pour le peuple. Et c'est ainsi que Dieu a donné ce message à Isaïe d'annoncer, pas à tout le monde, notons, va mon peuple, entre dans ta chambre. Qui est le peuple de Dieu si ce n'est ce peuple que Dieu a élu? Et ferme la porte derrière toi. C'est Christ qui est cette porte. Donc, entrer dans la chambre et fermer la porte représente entrer en Christ et avoir cette sécurité. Une porte fermée derrière nous représente la sécurité. Cache-toi pour quelques instants. Nous vivons encore dans un monde qui nous menace, mais nous sommes cachés pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Nous étions cachés en Christ et la colère a passé au-dessus de nous, comme les enfants d'Israël qui devaient, pour la Pâque, mettre le sang sur les manteaux et entrer et rester là pendant que l'ange, la mort, a passé. C'est ainsi que la colère nous a passé en Jésus-Christ, mais notre refuge, c'est en lui. Et c'est lui qui est pour nous, comme c'est écrit, ce refuge est asile, un couvert de tempête et de pluie, de souffle terrible que nous pouvons anticiper, subir dans cette vie, même la persécution. Il y a beaucoup de raisons pour nous de chercher notre refuge et asile de l'orage et la pluie en Christ. Mais c'est en ce moment-là que nous trouvons que Christ est tout pour nous. Il a déjà tout payé par sa vie et sa mort, et son œuvre a été imputée une fois pour toutes à son peuple. Donc c'est ainsi que nous trouvons notre refuge en lui. Et quelle que soit l'épreuve, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà les bénédictions de ceux qui sont sous son règne, qui règne maintenant, et son peuple, alors est en sécurité en lui. Que le Seigneur bénisse sa parole.